Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec Perrine Chuquet, avec Margot Agnès. Aujourd'hui, c'est André Facetta qui est aux manettes techniques de cette émission. Et à la une, vous l'avez peut-être entendu quand on en parlait tout à l'heure avec Christelle Revière et Vincent Parisot, celui qu'on a appelé le Landru du Danube, mais on l'a appelé aussi le Petiot de Bruxelles, le Pasteur Diabolique, le Nouveau Barbe Bleue, le Dracula des temps modernes, enfin, évidemment. Les journalistes ont cherché tous les adjectifs possibles et imaginables. On a parlé évidemment de la maison de l'horreur ou des maisons de l'horreur à Bruxelles où ce pasteur qui faisait partie de la communauté hongroise, réfugié depuis 1957 en Belgique après les événements de Budapest, où cet homme avait des maisons. Et une très nombreuse famille dont un bon nombre de membres avaient disparu au fil des années. Alors, cette histoire, je vais vous dire tout de suite, je ne la connaissais pas, Perrine Chuquet non plus, et donc merci encore une fois à ceux et à celles qui par RTL.fr nous soumettent des idées d'émissions. C'est ce qu'a fait un des auditeurs de l'heure du crime qui habite à Bruxelles, qui est en ligne maintenant. Christian, bonjour Christian.
Oui, bonjour Jacques Pradel.
Alors Christian Breinex, dites-moi, vous écoutez régulièrement l'émission, vous êtes habitant de Bruxelles, vous n'avez pas pu passer évidemment à côté de cette histoire-là quand même. Hein.
Non, d'autant plus que j'ai côtoyé très peu évidemment le pasteur Pandy, mais j'ai vraiment côtoyé Agnès Pandy.
Ah, la fille.
Dans la mesure... oui. La fille, dans la mesure où elle était secrétaire téléphoniste dans une société où moi j'étais cadre commercial, ouais. Et je la voyais plusieurs fois par semaine. Donc Agnès, pendant toute cette époque qu'elle a tuée dans les années 85-86, elle travaillait, je dirais, à mes côtés, elle travaillait pour moi.
C'est terrible, parce que, alors évidemment, vous avez découvert, vous, tout ça un matin dans le journal.
Mais c'était l'effrayement.
Cette femme, elle était comment? Elle était, c'est une jolie fille, c'est, enfin, vous non. Me disiez, dans le message que vous m'avez laissé sur RTL.fr, vous disiez qu'elle avait un petit béguin pour vous.
Oui, justement, peut-être qu'elle nous écoute, qu'elle m'en veuille pas trop, elle n'était pas très jolie. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas très fort répondu à ses avances, parce qu'éventuellement, si j'avais répondu, je me serais aussi retrouvé dans une de ces maisons de l'horreur en petits morceaux ou dans un bac acide. Non, mais elle était. Mais il y avait, justement, pendant toute cette période-là, elle était... C'était une bonne employée, elle travaillait correctement, mais elle était bizarre. Oui. Et nous avons dû la licencier parce qu'à certains moments, elle quittait... la société, soi-disant, elle retournait en Hongrie et elle disparaissait carrément pendant plusieurs jours sans donner signe de vie. Et elle a fait ça plusieurs fois. Et ouais. Je crois que ça devait correspondre à cette période-là, dans ces années 85-86, donc où vraiment il se passait des choses.
Ouais,
c'est vrai qu'il y avait un côté mystérieux chez ces gens.
Oui, parce que l'affaire a éclaté effectivement en octobre 97, hein, comme on le disait tout à l'heure, mais ça on va en reparler dans un instant avec mon invité, parce que Christian, quand vous avez donc attiré notre attention là-dessus, il y a un autre élément qui explique pourquoi on repense à cette affaire en ce moment en Belgique, hein, d'ailleurs, depuis fin décembre dernier.
Oui, d'abord, le pasteur est mort, et on s'est toujours posé la question, y avait-il eu d'autres cadavres? On a trouvé des ossements, étaient-ce des ossements humains? Étaient-ce des ossements d'animaux? On ne sait pas très très bien, il y a quelque chose, vous savez, c'est comme dans l'affaire Dutroux, on a trouvé des milliers de cheveux, et on ne sait pas exactement à qui on sait. Donc il y a toujours ce petit côté de mystère. Les enquêteurs disent, on sait tout, mais... Vraiment, on se pose, est-il mort avec un certain secret fin décembre? C'est vraiment la question, et peut-être que votre spécialiste du soir pourra nous répondre. Mais ouais. Ça reste un mystère, et aussi pour plusieurs personnes qui, au moins, l'ont côtoyé Agnès, ça reste aussi un moment terrible de se dire que j'ai côtoyé quelqu'un qui a tué ses sœurs et sa maman, qui venaient au bureau aussi. Donc on a, oh, moi, là, j'ai là, connu terrible. Ces victimes. Ouais. Donc ouais. on était là, mais on ne s'imaginait évidemment pas d'une pareille affaire.
Ah oui, quand elle venait à peine d'avoir 30 ans, elle a tué sa mère d'une balle dans la tête à bout portant, et quelques minutes auparavant, elle avait tué son jeune frère également d'une balle dans la tête. Mais on va revenir sur les détails de l'enquête dans un instant. Je vous remercie beaucoup. Merci
Christian. C'est moi qui vous remercie de mettre cette affaire à l'honneur, et j'espère qu'on pourra apporter quelques explications supplémentaires.
Voilà, des explications certainement, pointer les zones d'ombre certainement aussi, parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Questions sans réponse, on va voir ça tout de suite avec notre invité. Donc vous avez cité le soir, le grand journal du soir le soir de Bruxelles. Marc Met de Penningen est journaliste au soir. C'est un spécialiste des affaires criminelles, également des procès, des affaires judiciaires. Bonjour Marc.
Bonjour Jacques.
Alors merci, donc vous êtes hébergé comme d'habitude par nos amis dans les studios de Bell RTL à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on peut dire à Christian tout de suite sur les zones d'ombre qui restent? Il en reste beaucoup d'après vous, parce qu'il disait, la police dit que on sait tous, c'est une manière de rassurer la population.
Je voudrais d'abord dire à Christian, le rassurer tout d'abord, car la singularité de cette affaire Pandy, c'est que ce ne sont que entre guillemets, des crimes qui sont commis dans la sphère familiale. On n'a recensé aucun fait à caractère criminel, à caractère violent, commis sur des extérieurs au cercle familial.
Ah, alors écoutez, on reviendra tout à l'heure là-dessus, parce que moi, je me suis, plongé dans un dossier extrêmement volumineux, moins volumineux que le dossier judiciaire, qui comporte, je crois, 100 000 lignes, à peu près, 100 000 pages même. J'ai vu quelque part que des analyses ADN avaient montré que certains des ossements trouvés étaient des membres extérieurs à la famille. Mais bon.
C'est-à-dire que les autres ossements retrouvés, on n'a jamais pu les identifier. L'hypothèse qui est retenue jusqu'à présent, et ça semble être l'hypothèse correcte, c'est qu'il s'agirait donc pour des ossements découverts dans les caves du pasteur pendu à Bruxelles, donc des restes provenant d'un ancien cimetière municipal datant des années 1700 ou 1600.
On est rassuré alors. On reviendra sur ces maisons qu'on a appelées les maisons de l'horreur à juste titre. Mais tout d'abord, Marc Met de Penningen, est-ce qu'on peut refaire le fil de la manière dont l'affaire a éclaté? Parce que je faisais allusion tout à l'heure à l'affaire du trou, qui était un séisme terrible évidemment en Belgique, et les nombreux dysfonctionnements de l'affaire du trou ont conduit des juges d'instruction et des membres du parquet à réouvrir d'anciens dossiers.
Oui, tout à fait. Ce sont des estompements de la norme. Ce sont des petits oublis commis par les policiers qui vont permettre au pasteur Pandy de poursuivre cette carrière criminelle intrafamiliale. Il y a, dans les années qui précèdent son identification, des plaintes déposées par l'une et l'autre de ses filles pour des attouchements sexuels, pour des viols, pour des coups qui ont été donnés, pour une menace également de sévices sexuels que pourrait endurer la plus petite fille de la famille, ce qui conduit à son placement dans une institution de protection de la jeunesse. Mais là, la police criminelle n'est pas informée. Agnès Pandy elle-même, en 92, dépose une plainte, parle de disparition, on enquête un peu mollement, on la croit un peu folle, ce qu'elle raconte paraît invraisemblable. Le pasteur Pandy, qui est interrogé déjà à ce moment-là, va produire des certificats de divorce qu'il a obtenu auprès de complices en Hongrie, etc.
Il va produire des lettres des personnes disparues en disant, mais attendez, c'est du roman, elles m'écrivent régulièrement. On découvrira plus tard que c'est lui qui les a écrits. Évidemment,
tout à fait.
C'est l'être. Alors, juste un mot, Marc, parce que là, il faut faire une pause. On fait cette pause, on se retrouve tout de suite après. Vous nous dites comment vraiment ils sont arrivés jusqu'à lui, parce que le vrai grand rebondissement dans l'affaire, ça a été quand Agnès a avoué, parce que c'est elle qui a craqué. Lui, il a toujours dit non. Et on va parler aussi de la personnalité, on va faire le portrait de cet homme. Qui est-il vraiment? Pourquoi était-il en Belgique depuis 1957? On vous dit tout dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et à la une de notre émission aujourd'hui, cette histoire absolument incroyable et effroyable, l'histoire du pasteur Andras Pandy, surnommé le Landru du Danube. D'ailleurs, à juste titre, parce que on y reviendra tout à l'heure avec mon invité Marc Met de Penningen du journal Le Soir, qui a suivi ce dossier pour son journal, parce que le pasteur Pandy, ça a été prouvé dans l'instruction, a recruté certaines personnes, et notamment des femmes qu'il a épousé, je crois, par l'intermédiaire de petites annonces, mais peut-être aussi d'autres victimes. Alors, on y reviendra tout à l'heure, on retourne à Bruxelles dans un tout petit moment, mais d'abord, voyons comment les auditeurs d'RTL ont découvert cette affaire sur notre antenne. Ben, c'était tout simplement le 21 octobre 97, c'est-à-dire le lendemain du jour où les enquêteurs belges arrêtent cet homme de 70 ans, austère pasteur, membre de la communauté hongroise, réfugié en Belgique depuis la fin des années 50, après ce qu'on a appelé les événements de Budapest. Et on apprend surtout qu'il est soupçonné d'avoir tué 6 membres de la famille. Et comme je disais tout à l'heure, on fait tout de suite référence à l'affaire Dutroux en disant que c'est un peu une conséquence de l'affaire Dutroux. C'est ce que expliquait aux auditeurs sur notre antenne à l'époque Christophe Decroix, qui était le correspondant d'RTL dans le Nord.
Après la découverte des errements de la justice dans l'affaire Dutroux, le procureur du roi de Bruxelles avait été mis en cause parce qu'à la suite de la disparition de la petite Noumna, retrouvée plusieurs années plus tard assassinée, le parquet n'avait pas ouvert d'instruction. Mais les magistrats bruxellois avaient alors soutenu leur procureur qui dénonce depuis longtemps le manque de moyens de la justice. Et pour protester, ces magistrats ont décidé depuis mai dernier de rouvrir tous les dossiers de disparitions inexpliquées d'enfants et d'adultes. Et c'est comme cela qu'a été relancée l'enquête sur la disparition des proches d'Andras Pandy. Jusqu'alors, tout le monde s'était contenté des explications du pasteur. Si on ne voyait plus ses deux ex-femmes et quatre de ses filles, c'est parce qu'elles étaient parties vivre à l'étranger. Mais une dizaine d'années après leur mystérieuse disparition, il n'aura fallu finalement que quelques mois pour découvrir l'horrible vérité. Si les analyses le confirment, les ossements retrouvés sont ceux des femmes et enfants de celui qui pourrait bien être un nouveau Barbe Bleue.
Alors, je retourne à Bruxelles, donc Marc Met de Penningen, cet homme, ce pasteur, donc pasteur protestant, hein, était arrivé en 1957 en Belgique.
Oui, tout à fait. Donc, il quitte la Hongrie communiste à l'époque en 1956, victime de persécution, dit-il. Il fait partie d'une petite communauté protestante qui vit quasiment en autarcie, près de la frontière ukrainienne. Et il veut devenir pasteur. Il veut émigrer à l'Ouest. Il passe d'abord par Bâle, en Suisse, où suit une formation de pasteur protestant. Et il est ensuite affecté en poste, donc, à Bruxelles pour la partie flamande de la Belgique.
Et il est professeur de religion ?
Il est professeur de religion, donc en Belgique, il y a des cours de religion qui sont donnés même à l'école publique, et donc les religions reconnues, comme le protestantisme, ont droit à des professeurs de religion.
Voilà, et donc alors il a la double nationalité, hein, je crois,
oui.
Et il fait des navettes régulières entre donc son pays d'adoption et la Hongrie.
C'est-à-dire, son pays d'adoption, il va y retourner une fois que la situation politique s'y sera calmée. 56, c'était évidemment les répressions soviétiques qui s'y produisirent. Ouais. Après le printemps de Prague, enfin, etc., Budapest, la descente des chars soviétiques. Mmh. Et puis, une fois que le mur va tomber, à partir des années 89, et voire même un petit peu plus tôt, là, il va retourner dans son pays, ce qui va favoriser, évidemment, la disparition de sa famille, même s'il les a tués à Bruxelles. À savoir, on se dit que ces immigrants hongrois sont sans doute retournés chez eux, sont peut-être en voyage, retrouver la famille,
ouais,
ça apparaît comme tout à fait normal.
Oui, alors ce qui a beaucoup étonné, je crois, les enquêteurs, c'est que quand on s'est vraiment intéressé de près ces disparitions et que des enquêteurs belges se sont dit mais il y a peut-être quand même quelque chose de criminel là-dessous, on a commencé à faire l'inventaire des maisons de cet homme. On en a trouvé 3 à Bruxelles. Je crois que vous connaissez les lieux d'ailleurs. Mais avec quel argent il aurait pu acheter ces maisons? Parce que c'est pas les cours de religion, j'imagine, qui permettent d'acheter 3 maisons à Bruxelles.
Non, très loin. loin de là. Ceci dit, ces maisons, ce sont des masures qui sont situées dans ce vieux quartier de Bruxelles, le quartier du canal qu'on appelle le coin du diable.
Ah, en plus.
Tout à fait. Ce sont d'anciens bâtiments quasi-industriels ou semi-industriels, plus ou moins en ruine, qu'il va acheter pour des croûtes de pain. Et il peut compter sur des contributions de cette petite communauté protestante de Flandre et de Bruxelles.
Voilà. Et donc, quand les enquêteurs, ayant rouvert le dossier des disparitions dans sa famille, l'interrogent, lui, il nie catégoriquement. Il est arrêté le 20 octobre 97, mais enfin, il nie, hein, farouchement.
Tout à fait, il y a eu des signaux qui ont été donnés dans les années précédentes, plainte en 1992, donc signalement des disparitions, mais comme d'habitude pour les disparitions de majeurs, on considère, les services de police en tout cas considèrent qu'il s'agit de disparitions normales, c'est le fait d'adultes qui ont décidé de disparaître, donc il n'y a pas lieu d'engager l'action publique dès lors que rien manifestement ne vient faire croire à un fait criminel. Par ailleurs, Pandy est quelqu'un d'extrêmement organisé. Il a fait envoyer des cartes postales de l'étranger faisant croire que ses victimes étaient encore en vie. Il est allé en Hongrie pour faire acter son divorce et l'abandon de foyer de la part de sa deuxième épouse par ailleurs. Il y a son propre fils qui est dans un état mental un peu déficient, dirions-nous, qui atteste que sa mère est en vie. Et puis surtout, il a fait croire à la police belge via la police hongroise que ses enfants étaient bien vivants. Pour ce faire, il avait engagé, lors d'un voyage en Hongrie, des acteurs qu'il faisait passer pour ses enfants.
C'est extraordinaire, on est dans un scénario de film, quoi. Engager des comédiens pour les faire passer pour ses propres enfants. Alors on fait une pause et ensuite on va revenir quand même au dossier, hein, Mark Medde-Penningen, parce que il a beau nier, les charges des réunies par les enquêteurs vont vite devenir accablantes, on en parle dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et justement, donc, grâce à notre éditeur de Bruxelles, on revisite les méandres de cette enquête extraordinaire. Il y a un procès aussi dont on parlera tout à l'heure. On fait tout ça avec Mark Medde-Penningen qui a suivi ce dossier pour son journal Le Soir. Et on le disait tout à l'heure, l'affaire éclate donc le 20 octobre 1997. Il faut dire que un mois et deux jours, 22 novembre, nouveau rebondissement dans l'affaire, et c'est au tour justement de Agnès Pandy d'être interpellée par les enquêteurs. Stupeur, on apprend qu'elle a avoué avoir participé à différents assassinats en complicité donc avec le pasteur. Écoutez le point que faisait sur l'enquête à l'époque Christophe Decroix.
L'interpellation d'Agnès Pandy est d'autant plus surprenante que c'est elle qui aurait à plusieurs reprises accusé son père et provoqué son arrestation. Mais d'après une source proche de l'enquête, cette jeune femme de 39 ans aurait bien avoué l'assassinat de sa propre mère et de l'un de ses frères. Des disparitions qui avaient été mises sur le compte de son père, le pasteur Andras Pandy, poursuivi pour les meurtres de 6 de ses proches. La justice belge n'a rien voulu dire, mais cette nouvelle inculpation pourrait laisser entendre que le père et sa fille aînée aient été co-auteurs de certains de ces assassinats. Le pasteur, lui, conserve son mutisme habituel. Les ossements de 3 cadavres ont toutefois déjà été retrouvés dans les caves de ces maisons bruxelloises, mais les analyses n'ont pas encore permis de déterminer l'identité des malheureuses victimes.
Alors, Mark Medde-Penningen, vous êtes allé donc dans ce quartier du coin du diable dont on parlait tout à l'heure. Vous avez vu les maisons, vous avez pénétré à l'intérieur?
Pas pénétré à l'époque, c'était évidemment barricadé, c'était l'objet de fouilles quasiment incessantes. Il y avait le fameux radar anglais utilisé pour l'affaire Dutroux, pour les fouilles chez Dutroux, qui se poursuivait encore à l'époque, qui venait sur place. Il y avait des excavations en permanence, c'était un chantier criminel assez extraordinaire. Les maisons de Pandy, c'est une de leurs caractéristiques, sont toutes des maisons de coin. Ça lui permettait d'observer dans la rue ce qui s'est passé, surtout d'exercer une surveillance absolue et dictatorielle sur l'ensemble de sa famille. Il avait installé à l'intérieur même de sa maison des systèmes de miroirs qui permettaient de savoir où ils étaient et ce qu'ils faisaient à chaque instant.
Et alors ça, on imagine la stupeur des enquêteurs quand ils ont perquisitionné ces maisons. Il faut parler du mobile parce que avec l'arrestation qu'on vient d'évoquer d'Agnès Pandy, on commence à comprendre, on commence en tout cas à entendre quel a pu être le mobile parce qu'elle va en parler à Agnès dans sa garde à vue.
Oui, tout à fait. Enfin, elle va prétendre très généralement qu'elle était sous l'emprise de son père, qu'elle ne pouvait pas ne pas lui obéir sous peine d'être liquidée elle-même. Il y a très certainement d'autres motivations qui ont animé Agnès. Agnès, dès l'âge de 11 ans, a commencé à être violée par son père. Elle devient la femme de substitution. À l'époque, son épouse, sa première épouse, qui va être tuée également, Ilonès, est partie parce qu'elle ne supporte plus de vivre comme une femme de ménage. À perpétuité. Et donc Agnès devient la femme de la maison, astreinte également à des tâches ménagères. Quand les autres enfants, quand son père va se remarier, elle va concevoir comme une jalousie de n'être plus la première. C'est un comportement que les psychiatres ont expliqué durant le procès. Il y a des gens qui viennent lui voler son père. Il y a cette femme, Edith Fintor, donc la deuxième épouse du pasteur, qui devient la chef de maison. Et puis surtout, le pasteur va se prendre d'affection pour une des filles d'Edith Fintor qu'elle a eue dans une précédente union, Timéa, qui va être enceinte de ses œuvres. Et là,
va mettre au monde un enfant. Donc,
exactement. Et pour Agnès, là, c'en est de trop. Elle n'est définitivement plus la favorite. Elle va tenter, dans un premier temps, ça se passe déjà en 1985, de tuer Timéa, qui lui a volé l'homme qu'elle considérait comme le sien.
Ah, c'est terrible. Et alors, cette Timéa a survécu, en fait. Elle a quitté la Belgique, non? C'est bien elle? Parce que je me perds un peu, je dois dire, dans tous les personnages. Oui. Parce que la famille était très nombreuse, les victimes sont très nombreuses aussi. Donc, certaines ont eu de la chance. Hein.
Tout à fait. Mais Timéa, c'est vraiment le nœud de l'affaire, à savoir, Timéa a eu un enfant. Pandy prétend qu'elle est tombée enceinte parce qu'elle s'était frottée avec un essuie sur lequel le pasteur avait laissé du sperme. Il fera même établir un certificat médical en ce sens par un médecin hongrois qui a mystérieusement disparu 2 mois après avoir établi ce certificat. Et Timéa,
qu'il l'a tué ou pas? On pense qu'il a tué le médecin, non?
Rien n'a jamais permis de l'établir, en tout cas. Mais ce que Timéa veut absolument, c'est garder l'enfant malgré le viol. Pandy, lui, veut absolument adopter cet enfant, ce que Timéa refuse, et tout ce qui va se produire par la suite, c'est cette compétition entre Timéa et Pandy, qui ne veut pas être dénoncé par sa famille, qui veut absolument récupérer cet enfant, et tout ce qui le gêne dans ce projet, dans cette obsession, va être éliminé. Les femmes, ces deux épouses donc, ces enfants veulent en certains moments le dénoncer, et c'est pour cela, me semble-t-il, est-il aussi ressorti des débats, que Pandy les a tués les uns après les autres.
Alors, on va faire une nouvelle pause et on est obligé dans une affaire comme celle-là, et c'est pour ça aussi que on en a énormément parlé, qu'elle a frappé l'opinion en Belgique. C'est la manière dont ils ont tué et la manière dont ils se sont débarrassés des cadavres. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Je préviens les âmes sensibles, c'est pour ça que je vous dis ça juste avant une pause. Voilà, vous savez qu'on n'a pas de complaisance macabre dans cette émission, mais là, c'est au cœur en fait de l'affaire. Il faudra donc en parler avec toute la pudeur dont je vous sais habitué. Marc Maître de Penigal, on se retrouve dans quelques secondes.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
L'arrestation et les aveux d'Agnès Pandy le 22 novembre 1997 font un fracas absolument terrible en Belgique. Avant de retrouver Marc Maître de Penningen, on va écouter ce que Christophe Decroix disait sur notre antenne, puisque il suivait l'affaire pour RTL. Christophe Decroix donnait le 22 novembre 1997 des précisions sur le contenu justement de ces rebondissements.
Raspandi et sa fille aînée Agnès formaient en effet un couple diabolique. Celle qui avait pourtant dénoncé son père pour inceste se révèle être à la fois sa fille, sa maîtresse, ainsi que sa complice dans les meurtres d'au moins 5 membres de leur famille. Agnès, qui a aujourd'hui 39 ans, a avoué avoir tué elle-même sa propre mère et aidé son père et amant à tuer à coups de masse ou par balle deux de ses frères, la seconde épouse du pasteur et une fille de cette dernière. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés et pour cause, d'après la police, ils ont été découpés en morceaux, dissous dans l'acide ou déposés dans des sacs plastiques près des abattoirs d'Anderlecht. Agnès agissait, semble-t-il, sous l'emprise de son père, mais on ne connaît pas leur mobile. Les policiers sont toutefois très inquiets. Les ossements des 4 corps retrouvés dans les caves des maisons bruxelloises du pasteur n'appartiendraient pas aux membres de sa famille. Il pourrait s'agir de femmes que Pandi aurait fait venir de Hongrie. La liste des victimes n'est donc sans doute pas terminée.
Alors pour le mobile, vous nous avez éclairé il y a un instant, Marc Maître de Penningen, mais on va revenir sur ce macabre travail de disparition des cadavres. Ils avaient mis au point un système absolument qui a époustouflé les enquêteurs.
Oui, tout à fait. Donc tout se passe dans les caves des maisons de Pandi, où on attire les victimes les unes après les autres. Ça s'étale sur une période de 3 ans environ. Les uns sont abattus au fusil, généralement dans le dos. Les autres sont étourdis à coups de masse et ensuite découpés à la scie, au couteau, avant que les restes macabres ne soient mis dans des grandes bassines. Les reconstitutions le montreront d'ailleurs, c'était assez épouvantable à voir lors du procès. Et les plus gros morceaux, ceux dont on ne peut pas se débarrasser, seront pour partie cachés dans des détritus des abattoirs d'Anderlecht qui font quasiment face à la maison du pasteur Pandi.
Oui, mais je faisais allusion, moi ce qui a étonné, ils disaient qu'ils avaient utilisé un produit ménager, oui. Un truc qu'on utilise pour déboucher les tuyaux bouchés, hein, oui. Un produit qui avait d'ailleurs été sinon interdit, ou en tout cas dont on avait cessé la commercialisation parce qu'il était tout vraiment dangereux. Hein.
Oui, la composition avait été changée et apparemment donc le pasteur Pandi disposait de vieux stocks. On a retrouvé chez lui, si je me souviens bien, 21 bidons de 2 litres et tout le reste avait été utilisé pour la dissolution donc des corps de ces victimes. C'était une période assez particulière. On voyait, ça paraissait tellement invraisemblable que la presse, les radios, les télés, les journaux se livraient à des expériences sur des morceaux de viande pour voir si un produit ménager effectivement pouvait produire ce type d'effet. On verra qu'au procès, ce fut parfaitement démontré.
Alors oui, mais on peut dire, puisque ça s'est fait pendant l'instruction, c'est que le juge d'instruction a demandé en fait à la police de réaliser l'expérience. Alors ça a fait une polémique, hein, si j'ai bien compris à l'époque, parce que on aurait pu prendre une carcasse d'animal entre nous. Eh bien, on a pris le corps de quelqu'un qui avait donné son corps à la science.
Tout à fait, oui. Donc, dans un institut médico-légal, donc toute cette opération a été filmée et projetée, d'ailleurs, pour partie en accéléré, en tout cas lors du procès, où on voit donc effectivement le cadavre d'un homme dont on coupe les pieds, les mains, la tête, et tout cela est plongé dans des bains d'acide. Et on voit après 5 minutes, après 1 heure, après 2 heures, etc., ce que cela donne. Et effectivement, ces morceaux de corps se dissolvent. Ils ne restent au fond des bacs qu'en espèce de magma infâme, à l'exception des dents qui, elles, sont très résistantes.
Alors, les enquêteurs belges, évidemment, ont pris contact avec leurs homologues hongrois. On a essayé de savoir si le pasteur avait tué aussi en Hongrie. Qu'est-ce que ça a donné, cet aspect international de l'enquête à l'époque ?
Mais il y eut des rumeurs, dénonciations, comme c'est le cas dans ce genre de grandes affaires criminelles, c'est le cas dans Dutroux également, des gens qui s'inquiétaient de la disparition de certains de leurs proches, qui attribuaient cela au pasteur Pandi. Des fouilles ont été organisées dans une maison de campagne dont disposait Pandi là-bas, dans son pays d'origine donc, et des os furent retrouvés. Il s'avéra qu'il ne s'agissait que d'os de provenance animale, à savoir des moutons et des chèvres, si je me souviens bien.
Oui, et on avait fait des perquisitions dans la banlieue de Budapest, je crois, qui s'appelle Dunakeszi,
oui.
Où il avait un petit pavillon. Et c'est là, en fait, c'est en Hongrie que les enquêteurs ont trouvé les fameuses fausses lettres écrites de sa main.
Oui, il y avait pour partie des fausses lettres qui étaient là-bas. Il avait un homme de confiance qui s'occupait de ce type de correspondance. Il pouvait compter aussi sur des femmes recrutées là-bas, un peu comme les acteurs, pour envoyer les faux courriers de ces deux épouses qui attestaient donc de ce qu'elles étaient bien en vie. Il était question d'une vingtaine de jeunes femmes ou de femmes d'âge plus mûr, disons, qui auraient été contactées par le pasteur Pandy. Deux d'entre elles au moins sont venues en Belgique pour de courts séjours. À l'une et l'autre, il avait promis le mariage. Pas de chance pour lui. Les deux, en jour, sont parvenus à se parler et ont découvert que ce coquin de Pandy essayait de s'attirer les faveurs de l'une et l'autre.
Voilà, d'où le sobriquet donc de Landru du Danube, qui lui colle bien à la peau, parce que c'est vrai, Landru, je sais plus combien, j'ai oublié le nombre exact de femmes qu'il avait contactées par petite annonce, mais c'était de l'ordre de plusieurs centaines. Et il y a un voisin de Pandy dans la banlieue de Budapest qui a dit que c'était un défilé permanent, qu'il était totalement obsédé par les femmes et qui lui avait même dit, c'est un voisin qui avait 80 ans à l'époque, je crois, et il paraît que Pandy lui avait dit l'inviter régulièrement à manger de la goulash, quoi, le plat national, et il lui avait dit mais je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses pas plus aux femmes. C'est incroyable, quoi. Il n'a rien dit en fait, ni dans l'instruction, ni on va le voir dans quelques instants dans le procès, il est resté silencieux sur ses fantasmes ou sur les raisons pour lesquelles il aurait commis ces atrocités.
Oui, tout à fait. Il les nie absolument. Il a toujours dit qu'il n'avait rien fait. D'ailleurs, il avait fait assez facile. On n'a jamais retrouvé d'ossements qui correspondent à sa victime, donc oui, analyse ADN, oui, etc. Les traces de sang, les résidus de traces de sang plutôt retrouvées dans ses caves n'ont jamais pu être analysées à suffisance. Donc, les indices matériels reliant Pandy directement aux victimes étaient quasiment inexistants, à part son journal intime de 2500 pages dans lequel des mots étranges comme plan, achat de fusil par exemple étaient mentionnés, permettait d'avoir des doutes. Et donc c'est vraiment la dénonciation de Agnès, la dénonciation cohérente de Agnès, qui a fait que le pasteur a pu être convaincu des crimes qui lui étaient reprochés.
Alors on va faire une dernière pause dans l'émission, on se retrouve tout de suite après, et on va parler du procès. Le procès a eu lieu en 2002, et on en parle dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Alors, c'est presque les 5 dernières minutes, pour reprendre le titre de l'émission célèbre de télévision de l'heure du crime. On retourne très vite à Bruxelles, dans les studios de Bell RTL, pour retrouver Marc Maître de Penningen. Le procès s'ouvre le 18 février 2002, Marc, dans le box des accusés, on découvre cet homme petit, râblé, 75 ans, avec des grosses lunettes carrées, et puis cette femme, beaucoup plus jeune, qui doit avoir dans les 45 ans, Agnès 39 Pandy.
Ans, oui.
39 ans, oui. Agnès, donc, Pandy, qui est assise, en fait, à 2 mètres de lui, quoi.
Oui, mais qui ne l'appelle que par la lettre P, tellement elle voue une haine féroce à son père. Lui, dans le box, ne dit rien. Dès lors qu'il nie les faits qui lui sont reprochés, il n'a de cesse que de prétendre que sa famille est vivante, les enfants vont revenir. D'ailleurs, dit-il, il les a aperçus lors d'une reconstitution organisée par le juge d'instruction. Son jeune fils Aaron, qui a des problèmes psychologiques, dit lui aussi, lorsqu'il témoigne, les avoir aperçus dans le métro. Et Pandy, un jour, a une grande sortie en disant, vous verrez, sur la place Poulard, c'est la place où se trouve le palais de justice, ils vont apparaître, ils travaillent pour une société multinationale, pour le KGB, même Poutine ne veut pas qu'ils viennent, et il nous prend, à nous, les vieux briscards de cour d'assises, d'aller voir sur le balcon du palais de justice, voir qui surplombe la fameuse place, voir s'il n'y a pas ces six personnes de qui apparaissent. Ça va être un beau scoop, évidemment.
Oui, mais Marc, un mot peut-être, puisque vous étiez là, hein, vous couvriez le procès pour le soir. Comment se débrouillent les avocats dans une affaire aussi terrible, parce que les preuves sont quand même accablantes, hein, disons-le.
Oui, ouais. L'avocat de Pandy, Andy Pendel, est très embêté. Évidemment, il ne peut plaider qu'en droit les manquements de l'enquête. Oui. Par exemple, il avait demandé qu'on analyse ces fameux flacons de Kleenex pour voir s'ils correspondaient bien à ce que la littérature scientifique avait renseigné. Mais tout
c'est
ça,
le produit de nettoyage en question, là, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, exactement, mais contre les faits, contre les aveux confondants d'Agnès, il ne peut dire que peu de choses. Andy Pendel, c'est l'avocat, connaîtra d'ailleurs un destin funeste, vu que quelques mois plus tard, il sera assassiné lui-même par sa propre épouse.
C'est extraordinaire, vraiment. Quand je pense qu'il y a des gens qui se creusent la tête pour inventer des fictions. Est-ce que c'est vrai que le pasteur Pandy a dit, pour ceux dont il avait dû quand même admettre le fait qu'ils étaient décédés, disait « mais je communique avec eux par l'intermédiaire des anges ».
Oui, tout à fait, les anges, et parfois même par des signes du regard, lorsqu'il est extrait de sa cellule pour l'une ou l'autre chose, il a toujours prétendu que c'était le cas. Son fils Aaron, donc Andras Junior, a lui encore prétendu il y a quelques années qu'il avait rencontré sa famille. Il a fait l'objet d'une mesure de placement judiciaire du fait de son état psychiatrique.
Il nous reste une petite minute et demie avant la fin de l'émission. Je voulais vous poser la question intimement, vous qui avez assisté à ce débat, à ce procès. C'est un fou, cet homme, ou c'est pire, si j'ose dire?
Mais je crois que tous les tueurs sont quelque part un peu fous. Le tout est de voir le niveau de folie pour les déclarer incapables du contrôle de leurs actes, irresponsables, etc. Mais cette affaire surtout nous renseigne qu'une disparition, d'adultes qui n'est jamais extrêmement suivie par les policiers peut parfois révéler des choses incroyables, extraordinaires. Et je crois que les policiers belges, en tout cas, sont dorénavant plus attentifs lorsqu'on leur signale une disparition, fût-elle celle d'une seule personne et non de six, comme c'était le cas dans l'affaire Pandy.
Alors, il faut parler du verdict, hein, pour terminer. Il y avait 12 jurés, hein, je crois, 4 hommes et 8 femmes, choisis par le tribunal, hein, selon la loi belge, en tout cas.
Hein. Ne pas par tirage au sort, donc. Hein.
Oui. Ils se sont réunis très longuement avant de prendre leur décision.
Ben, il y avait quand même pas mal de questions auxquelles il fallait répondre, vu qu'il y avait 6 disparitions qui étaient qualifiées d'assassinat. Donc la délibération, si je me souviens bien, avait duré 5 ou 6 heures pour mettre tout ça en conformité avec le prescrit légal qui préside lors des délibés. Et donc Pandy fut condamné à la détention, aux travaux forcés à perpétuité, enfin travaux forcés c'est plus ce que c'est évidemment, et alors Agnès Pandy écopa de 21 ans de réclusion. Elle a depuis été libérée et est hébergée dans un couvent.
Oui.
Comme Michel Martin.
Comme Michel Martin, et peut-être.
La complice de Dutroux. Ouais. Pas dans le même, non.
Bon. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Marc Maître de Penningen, parce qu'on avait une très grande curiosité, il faut dire, sur cette affaire qui nous avait été signalée par notre auditeur qui habite Bruxelles.
Je vous remercie, Jacques.
Et puis, j'allais vous dire, à bientôt de toute façon, hein, parce que on se retrouve souvent autour d'affaires épouvantables, mais on prend toujours le même plaisir à vous rencontrer.
Petit pays, grandes affaires. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup. Et merci à tous nos amis des studios de Bell RTL à Bruxelles.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.